La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, on vous en parlait dans le journal, ont déclenché hier le mécanisme de rétablissement des sanctions des Nations Unies contre l'Iran en raison de son programme nucléaire. On analyse la situation avec David Rigoulet-Roz, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et par ailleurs rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il est au micro de Blaise van der Linden.
David Rigoulet-Roz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, on l'a appris cette nuit, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne s'apprêtent à déclencher le mécanisme de snapback des sanctions onusiennes contre l'Iran. Ça pourrait se faire ce jeudi. Pour commencer, David Rigoulet-Roz, remettons les choses dans leur contexte. On a beaucoup parlé de ce mécanisme de snapback. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique?
En fait, c'est un mécanisme, en fait, c'est notre idée. D'ailleurs, c'est à l'origine. C'était un outil qui a été forgé par les Français lors des négociations qui ont débouché sur l'accord de juillet 2015. Puisque les Français trouvaient qu'il y avait de la part de l'administration américaine d'Obama éventuellement un manque de contraintes sur d'éventuels écarts iraniens et que donc on avait intégré ce mécanisme. Alors, c'est un mécanisme en fait qui prévoit dans le cadre de la résolution 2231. Qui encadre la question de nucléaire, le fameux JCPOA de juillet 2015, il prévoit le rétablissement potentiel de toutes les sanctions internationales. Et là, il ne s'agit pas de sanctions bilatérales comme les américaines ou d'autres. Les sanctions internationales qui avaient été levées justement dans le prolongement de la signature de l'accord de juillet 2015. Puisque alors ces sanctions c'était justement liées au développement des relations commerciales ou à l'accès à certains matériaux susceptibles d'entrer en ligne de compte dans l'économie iranienne. Il se trouve que aujourd'hui c'est un outil qui est toujours valable puisque la résolution 2231 n'arrive à échéance que le 18 octobre prochain. Qui est la date où le fameux JCPOA, qui a de fait été vidé de sa substance, arrive également, devient caduque. Et il se trouve que c'est la raison pour laquelle la Troïka européenne, l'E3, a décidé, devant l'obstruction iranienne, de mobiliser cet outil, qui peut faire très mal, parce qu'il s'ajouterait justement à toutes les sanctions qui existent déjà, notamment la pression maximale américaine, et qui obligerait en réalité au niveau international, tous les pays, justement, à s'y soumettre. En réalité, il s'agit d'un mécanisme qui est présenté par un des pays européens, éventuellement les trois, au motif que l'Iran serait en infraction par rapport aux engagements qu'avaient été les siens lors de la signature de juillet 2015, ce qui est avéré aujourd'hui au regard du taux d'enrichissement à plus de 60% et du retrait de la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le programme en question. Et donc c'est un outil, effectivement, une épée de Damoclès qui pèse aujourd'hui sur Téhéran, d'où l'irritation, on va dire la véhémence de Téhéran à l'endroit des Européens qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait à l'époque et qui seraient accusés de vouloir instrumentaliser cet outil qui n'aurait pas lieu d'être. En réalité, il est parfaitement prévu et il est redoutable dans son fonctionnement, puisqu'en réalité, une fois qu'il est soumis au Conseil de sécurité, il y a une logique de veto inversé, c'est-à-dire qu'aucun des pays signataires de l'accord, les 5 plus 1, 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, mais en tout cas les 5 membres permanents, ne peut opposer son veto à partir du moment où un seul des pays justement considère qu'il y a infraction caractérisée.
Alors, lors des frappes américaines et israéliennes, le programme nucléaire iranien a été grandement affaibli. Est-ce que le fait que l'E3 revienne sur ces snapbacks, ça va encore plus l'affaiblir, peut-être même l'anéantir?
En tout cas, il y a une grande inquiétude à Téhéran. Qui d'ailleurs est explicite hein, de la part de certains membres du NEZAM, le système iranien, qui considère que la situation est déjà extrêmement difficile et qui risque d'être encore plus difficile avec des risques de déstabilisation de la société iranienne dans son ensemble, de manifestations, voire d'émeutes, comme il y a pu avoir par le passé. Donc il y a une vraie inquiétude, ce qui explique évidemment les menaces qui sont formulées à l'endroit des Européens en leur signifiant que ça entraînera des contre enfin, en tout cas, des contre-mesures iraniennes si, si la Troïka européenne, se risquait à mobiliser ce mécanisme. Donc, il y a une inquiétude et ça explique aussi, aujourd'hui, les Iraniens, essaient de mobiliser deux membres permanents comme la Chine et la Russie pour essayer de différer. Et notamment, il y a une proposition de résolution de la Russie pour pouvoir prolonger de 6 mois, justement, la résolution de 2231 qui arrive à échéance le 18 octobre prochain, pour différer, l'application du snapback, et pour éviter à l'Iran, justement, des difficultés supplémentaires. Mais ça a peu de chances, sinon aucune, de pouvoir passer parce qu'il suffirait, là, pour le coup, d'un veto. D'un des membres du Conseil de sécurité pour rendre impossible cette résolution. Donc l'épée de Damoclès, c'est bien là, et le calendrier s'accélère, et c'est bien ce que a dit explicitement le ministre Jean-Noël Barrot, français, en disant que le temps était compté pour l'Iran si l'Iran n'était pas disposé à revenir dans le cadre d'une négociation ouverte constructive en donnant des gages crédibles de sa bonne volonté.
C'était justement l'objet de ma prochaine question. Est-ce qu'on peut être optimiste? Justement, vous le dites, hein, Téhéran est frustré, Téhéran est vexé. Téhéran peut-il revenir à la table des négociations parce qu'acculé?
C'est le problème. Il y a un débat très très dense et très virulent entre les principaux acteurs du système iranien, entre ceux qui, certains modérés ou anciens réformateurs, vont jusqu'à évoquer le fait qu'il serait nécessaire aujourd'hui d'entamer des négociations directes avec les États-Unis, ce qui n'a pas été le cas de manière publique aujourd'hui, voire de suspendre le programme nucléaire pour donner des gages justement aux Occidentaux. Ils sont évidemment immédiatement stigmatisés comme des traîtres par les ultras. Et en plomb, le guide de la révolution vient de dire qu'il n'y avait pas de négociation possible, compte tenu de l'hostilité, notamment américaine, qui était insoluble. Et donc, c'était une manière de rendre irrecevable toute perspective de négociation, a fortiori, puisque la position de principe de Téhéran, c'est nous ne renoncerons pas au droit à l'enrichissement. Or, c'est la ligne rouge qui a été fixée finalement par les Américains, pas d'enrichissement de l'uranium. Donc, c'est une impasse. C'est une impasse. Et on ne voit pas très bien d'ailleurs comment les choses pourraient évoluer, sauf à considérer que l'affrontement militaire de juin dernier n'était qu'un épilogue temporaire.
Pour terminer, David Rigoulet-Rose, des inspecteurs de l'AIEA sont de retour en Iran. C'est ce qu'a annoncé Raphaël Grossi, le chef de l'AIEA. C'est la première équipe à y retourner depuis la suspension début juillet par Téhéran de sa coopération avec l'organisme onusien à la suite de la guerre des 12 jours. Est-ce qu'on peut y voir là un début de collaboration ou c'est une obligation?
Il faut se méfier des apparences d'abord parce que les Iraniens viennent de dire que si le snapback était mis en œuvre, ça autoriserait Téhéran à rompre tous les liens avec l'AIEA. Ils évoquaient une visite très partielle effectivement d'une équipe avec Raphaël Grossi, son directeur, mais qui a été physiquement menacé à titre personnel. Et il se trouve qu'il est protégé 24 heures sur 24 par des forces d'élite Cobra autrichienne, puisque l'AIEA a son siège en Autriche. C'est dire si la confiance est de mise. Et en l'occurrence, de toute façon, sa visite est très circonscrite, puisque les autorités iraniennes ont dit qu'effectivement, ça pouvait concerner un site comme la centrale de Bushehr, mais en aucune façon les sites qui avaient été bombardés justement lors de la guerre des 12 jours.
David Rigoulet-Rose, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci beaucoup.